I'm a fan of Denmark, too. But, you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Depuis quand le Groenland est-il convoité? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec le spécialiste de la géopolitique des régions polaires, Mikko Blujon-Mered. Aujourd'hui, cinquième épisode, la lente conquête par le Groenland de son autonomie.
Un désert de glace de 2000 km de long, de 800 km de large, de 3000 mètres d'altitude, où l'hiver, le thermomètre marque moins 60 degrés, un des lieux les moins connus du monde.
Le Groenland, cette terre septentrionale, mystérieuse, cernée par les glaces et les tempêtes aux températures extrêmes, difficiles d'accès, a été depuis toujours approchée, visitée. Visite pacifique des explorateurs, amis des Inuits, en quête de grands espaces ou de routes nouvelles. Mais cette terre, on l'a vu, a toujours été convoitée, colonisée, exploitée. Longtemps, le Groenland a même été un objet de rivalité entre la Norvège et le Danemark, quand ils étaient encore des frères ennemis. Au début des années 1930, les Norvégiens sont venus occuper une partie orientale du Groenland qu'ils ont baptisée la terre d'Éric le Rouge, en souvenir de leur ancêtre viking. 3 ans plus tard, la Cour internationale de La Haye jugeait cette occupation illégale. Les Norvégiens s'inclinaient. Mais lorsque les Allemands ont occupé la Norvège et mis à la tête du pays le Norvégien nazi Vidkun Quisling, celui-ci a décidé de reconquérir le Groenland. Par chance, les Allemands ont refusé. Le Groenland a échappé de peu à une occupation nazie. Dans toutes ces conquêtes du Groenland, tentées ou réussies, rarement, pour ne pas dire jamais, on a demandé leur avis aux populations autochtones.
France Inter, le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Les Groenlandais ont dû attendre 1953 pour que le statut colonial de l'île soit aboli et qu'elle devienne partie intégrante du royaume du Danemark. Dans les années 1960, ils réclament plus de liberté. En 1979, ils ont obtenu leur autonomie, qui, après le référendum de 2008, a été étendue au régime actuel d'autonomie gouvernementale. Depuis, le Groenland gère la quasi-totalité de ses affaires intérieures, tandis que le Danemark conserve la politique étrangère, la défense et la sécurité, en coordination avec le gouvernement groenlandais.
Nous sommes fiers de dire oui à ce référendum, parce qu'il nous rapproche de l'indépendance.
Couper totalement le cordon avec le Danemark et devenir un État indépendant, le Groenland et ses 57 000 habitants en rêvent. Et pour eux, cette future indépendance passe par l'exploitation des immenses richesses de l'île, diamants, plomb, zinc, uranium et surtout d'hypothétiques gisements d'hydrocarbures, du pétrole qui aiguise d'autant plus les convoitises que la fonte des glaces en faciliterait l'exploitation.
Aujourd'hui encore, le Danemark porte la tache de son passé colonial. Dans les années 50, l'industrialisation à marche forcée du Groenland, la volonté de rendre les Inuits plus « danois » en les contraignant à abandonner leur mode de vie traditionnel pour aller vivre et travailler en ville. Les Inuits n'ont pas oublié l'expérience dite des « petits danois » qui visait à créer une nouvelle élite au Groenland. En 1951, 22 enfants Inuits, âgés de 5 à 8 ans, ont été envoyés au Danemark pour apprendre la langue et la culture danoise dans l'optique qu'ils reviendraient un jour et serviraient de lien entre les deux sociétés. À leur arrivée au Danemark, les enfants ont été séparés de leur famille et placés dans des familles d'accueil ou des orphelinats. 2 ans plus tard, 16 d'entre eux sont retournés au Groenland, mais au lieu de retrouver leurs proches, ils ont été placés dans un orphelinat et beaucoup n'ont jamais revu leur famille. Autre traumatisme, en 2022, une enquête dans la presse a révélé que dans les années 60, le gouvernement danois, pour limiter la croissance de la population au Groenland, avait instauré une politique de contrôle de naissance. Des milliers d'adolescentes et de femmes inuites se sont fait poser des stérilets, souvent sans en être informées. En septembre 2025, pour la première fois, le gouvernement danois a présenté des excuses.
Je suis désolée pour l'injustice qui vous a été faite parce que vous étiez groenlandais. Je suis désolée pour ce qui vous a été pris et pour la douleur que cela a causée. Au nom du Danemark, je m'excuse.
Aujourd'hui, alors que les Groenlandais aspirent massivement à l'indépendance, leur pays est-il sur le point de subir une nouvelle colonisation? Mikko Blujon-Mered, depuis des siècles, on a rarement demandé l'avis des Groenlandais sur leur sort.
Oui, et les Groenlandais ont conquis cette capacité à pouvoir s'exprimer et définir leur destin. Ça a pris effectivement tout le XXe siècle, c'est-à-dire que en 1951, après la Seconde Guerre mondiale et après le refus par le Danemark que le Groenland soit racheté par les États-Unis, en 1951, donc, un pacte de défense est scellé entre les États-Unis et le Danemark. En 1953, ensuite, le Danemark donne au Groenland un nouveau statut et devient officiellement une colonie, un territoire d'outre-mer. Puis, en 1973, quand le Danemark rejoint l'Union européenne, le Groenland, parce qu'il a ce statut de territoire d'outre-mer, de colonie, n'a pas la possibilité de dire si ça l'intéresse ou pas. Donc, il est obligé de rejoindre l'Union européenne, ou plutôt la Communauté économique européenne, la CE de l'époque, avec le Danemark. C'est un élément important. En 1979, là, les choses changent, puisque pour la première fois, les Groenlandais vont avoir la possibilité d'avoir un gouvernement à eux, à Nuuk, qui puissent défendre leur vision des choses, notamment dans le cadre européen. 1985, on a un référendum. Et c'est la première fois, fondamentalement, que les Groenlandais ont leur mot à dire sur quelque chose d'aussi stratégique que est-ce qu'on veut rentrer ou rester dans cette construction européenne ou pas. Eh bien non, ils ont choisi de ni rester, ni entrer un peu plus, mais de bien sortir. Et donc cette sortie de la Communauté économique européenne a été actée en 1985. L'enjeu clé ici, c'était de préserver les ressources de la pêche. La pêche a toujours été au Groenland, bien sûr, la ressource principale. Il y a eu effectivement de l'or, il y a eu du secteur minier qui s'est développé, et ça va se faire évidemment dans les années qui viennent. Mais le contrôle de la pêche, ne pas laisser Bruxelles gérer la pêche, ne pas laisser Copenhague gérer les ressources de la pêche, c'était très important et c'est le point de départ de ce qui a permis aux Groenlandais ensuite d'avoir de plus en plus d'autonomie jusqu'en 2009.
Est-ce que le poids du passé colonial danois a pu jouer en la défaveur du Danemark par rapport, justement, dans ce match avec les États-Unis ? Les États-Unis peuvent dire ah ben, vous n'avez pas de leçons à nous donner, vous avez été colonisateur, nous, on va vous libérer, Groenlandais.
Alors, c'est non seulement vous avez été colonisateur, mais c'est vous aussi, vous avez été des colonisateurs pas particulièrement respectueux. C'est-à-dire que d'un côté, le Groenland des années 1979 jusqu'aux années 2000, c'est un Groenland où il y a une forte corruption par les Danois, une corruption évidemment économique et du coup politique. Il y a évidemment tout simplement une captation des moyens de production et des richesses principales. Il y a tous les scandales qui ont été au fur et à mesure révélés sur la question de l'environnement et des déchets radioactifs dans le nord-ouest du territoire, la question évidemment de la santé avec la stérilisation forcée. Tous ces éléments-là qui ont été révélés au fur et à mesure des années marquent aujourd'hui cette culture groenlandaise qui dit, mais en fait, on a vécu ce que c'était qu'une colonisation et on a vu, dans une période de décolonisation où on avait de plus en plus de droits, comment, malgré cela, la puissance colonisatrice, qui en Europe jouit d'un statut en plus de puissance peut-être encore plus solidaire, le fameux modèle danois qui en Europe est tellement mis en exergue comme étant l'un des meilleurs, bon, les Groenlandais voient ou en tout cas perçoivent qu'ils étaient quelque part dans l'envers de ce décor, de ce modèle danois. Et aujourd'hui, c'est toujours prégnant. En 2009, donc, après moult batailles, les Groenlandais ont obtenu, enfin, un gouvernement véritablement autonome. Toutes les compétences de politique publique sont aujourd'hui à Nuuk, sauf celles qui sont les plus régaliennes, comme la monnaie, comme la défense, ou comme encore les affaires étrangères. Bien que même pour les affaires étrangères, les Groenlandais aujourd'hui ont des représentations diplomatiques en propre, que ce soit à Beijing en Chine, à Washington DC aux États-Unis, que ce soit à Reykjavik en Islande, ou encore à Bruxelles. Donc ils peuvent parler avec leur propre voix.
Mika Blujon-Mered, vous avez l'occasion d'aller souvent en Groenland. Est-ce que les Groenlandais, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça ? Est-ce que majoritairement, ils pensent que c'est la même chose, le Danemark, les États-Unis ?
La plupart pensent que les États-Unis, c'est pire. D'une part, un pays qui est beaucoup plus va-t-en-guerre et qui a peut-être moins que le Danemark un respect pour d'autres peuples à travers la planète. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les États-Unis, si on comprend qu'aujourd'hui, les Groenlandais souhaitent obtenir une indépendance le plus rapidement possible, mais dans la limite où il ne faudrait pas que cette indépendance impacte les droits et les capacités de solidarité, de redistribution au sein de la société groenlandaise, toujours cette logique de collectif, eh bien très clairement les États-Unis ne sont pas le pays qui offre le plus de garanties sur le volet de la santé, de l'éducation ou encore du logement.
Et peut-être aussi les Groenlandais ont une conscience écologique plus claire que Donald Trump.
Très clairement, et ça c'est issu de l'animisme historique bien sûr des Groenlandais. Là aujourd'hui ce qui est en train d'être particulièrement clair dans la jeune génération, c'est-à-dire les nouveaux décideurs politiques qui aujourd'hui aujourd'hui ont la trentaine, c'est très clairement que, bien sûr, le Groenland a du potentiel, potentiellement un bel avenir, mais il faut rester dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, parce que la première victime du réchauffement climatique, c'est le Groenland. Et, deuxième élément, toutes les ressources économiques ne sont pas bonnes à extraire, par exemple l'uranium, par exemple potentiellement les terres rares du sud du pays avec l'uranium, parce que de fait, le coût environnemental serait beaucoup trop important.
Merci Mika Blujon-Méret, vous êtes l'auteur des Mondes polaires, édité au PUF en 2019. Vous avez également préfacé la traduction française du livre d'Elisabeth Buchanan, Alors tu veux acheter le Groenland, édité chez Saint-Simon en 2025. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée de Frédéric Martin et Marion Philippe, à la technique Alix Barrois et Anne-Laure Cochet au mixage. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.